Vous êtes sur Reporter, le quotidien de l'écologie. Nos meilleures enquêtes et reportages à écouter en podcast.
L'éco-anxiété, le mal de l'époque. Une enquête de Gaspard Dallance. Thérapie, stage, un business se développe autour de l'éco-anxiété. Autant d'injonctions à prendre soin de soi qui dépolitisent la question écologique. Pour les chercheurs, le pouvoir chercherait ainsi à rendre les opposants inoffensifs. Les saccages écologiques jouent sur notre santé mentale. Leur spectacle nous afflige et nous plonge dans un état de sidération. La Terre se meurt, son silence nous glace. Depuis des années, chercheurs, médecins et philosophes s'intéressent aux émotions engendrées par la crise environnementale. L'Anthropocène serait, selon eux, l'âge des passions tristes, le règne du deuil et de la perte, de l'angoisse et de la peur. Pour qualifier ces affects qui gagnent la société, l'éco-psychologue Johanna Massi parle de « peine pour le monde ». Face à des écosystèmes bouleversés que l'on ne reconnaît plus, le philosophe Baptiste Morisot évoque quant à lui un mal du pays sans exil. Nous sommes pris de vertige. La dévastation de la planète engendre une blessure intime, un effondrement intérieur. Il est presque impossible d'accepter toute la vérité sur ce que nous avons fait subir à la Terre. J'ai vu des gens vivre avec cette idée au quotidien. Ils ont développé une forme de folie, assure le philosophe Clive Hamilton. Cette terreur nous hante. Je veux que vous paniquiez, je veux que vous ressentiez la peur que j'éprouve tous les jours, lançait en 2019 Greta Thunberg aux dirigeants du monde réunis à Davos en Suisse. Son cri faisait écho à celui de toute une génération incapable de se projeter dans l'avenir. Des centaines de milliers de jeunes se disent en détresse. Différentes études révèlent l'ampleur du phénomène. Aux États-Unis, des psychiatres américains ont même créé la Climate Psychiatry Alliance pour sensibiliser la profession et le public aux impacts profonds de la crise climatique sur la santé et le bien-être. L'Association des psychiatres américains pense également que le changement climatique peut accroître les pathologies liées au stress comme les addictions, les troubles anxieux et la dépression. En 2018, une étude publiée dans Nature Climate Change estimait même que le nombre de suicidés pourrait augmenter de 9 000 à 40 000 personnes en 2050 en Amérique du Nord si les émissions de gaz à effet de serre continuaient d'augmenter au rythme actuel.
Reporter.
Le quotidien d'écologie.
Le terme d'éco-anxiété s'est peu à peu imposé pour désigner les conséquences psychologiques du réchauffement climatique. Selon un rapport de la Fondation Jean Jaurès, en 2018, en France, un seul article dans la presse écrite mentionnait cette expression. En 2019, on en comptait 108 et près de 150 en 2021. Son essor est fulgurant, tout comme ses thérapies. Internet regorge de vidéos où des youtubeurs et des adeptes du développement personnel prescrivent leurs recettes pour aider à aller mieux et se soigner face à la crise écologique. À partir du moment où vous souffrez d'éco-anxiété ou d'éco-dépression, parlez-en à votre médecin et allez voir un psy, invite l'un d'entre eux sur fond de musique larmoyante. On parle désormais de burn-out écologique et de détox médiatique. Un petit business se développe. Des stages payants sont proposés dans des écolieux à la campagne. Pour des budgets plus modestes, privilégiez des ateliers en visioconférence via l'application Zoom. 85 euros par personne pour 2 heures de discussion collective. Un cortège de consultants, d'auteurs et de thérapeutes nous exhorte à suivre un chemin intérieur, à gravir l'échelle de conscience pour passer du déni à l'apaisement, guérir notre âme et se réconcilier avec la situation. Il s'agit au passage de se prémunir, comme l'écrit l'essayiste Paul Scheffurka, des flux de colère, de contraintes, d'outrages et de blâmes qui circulent dans les veines de notre société comme du poison. Dans une conférence TED visionnée plus de 3 millions de fois, le psychologue et économiste Per Espen Stoknes affirme que l'obstacle le plus important s'agissant de traiter des perturbations climatiques repose entre nos deux oreilles. Il nous faut apprendre désormais à vivre sereinement dans un monde abîmé.
Reporter, le quotidien de l'écologie.
Au fil de ces lectures, le malaise s'installe. Les injonctions à prendre soin de soi et à cultiver sa résilience intérieure alors que nous plongeons dans le chaos climatique interrogent. Elles renvoient peu ou prou au dogme néolibéral du « il faut s'adapter » alors que l'environnement devient toujours plus hostile et compétitif. Cette démarche peut nous conduire à accepter la dévastation du monde, alerte la doctorante à Sciences Po, Lena Silberzahn. Sans dénier la réalité des émotions que suscite la crise écologique, de nombreux chercheurs constatent que la focalisation actuelle sur l'éco-anxiété entraîne de facto une psychologisation des enjeux climatiques. On délocalise les problèmes vers les individus et l'on traite l'éco-anxiété comme une névrose personnelle, alors que la source de ces problèmes se trouve dans les rapports de production capitaliste et dans l'inertie des États. On développe une approche thérapeutique dans le but de soigner les individus, alors que c'est le système qui est malade, poursuit la sociologue. L'éco-psychologue Johanna Massi raconte à ce sujet une anecdote. Alors qu'elle confiait à une psychothérapeute son indignation concernant la destruction de l'Amazonie, celle-ci lui expliqua que les bulldozers, tant haïs, représentaient sa libido et que sa détresse jaillissait de la peur de sa propre sexualité. En supposant que toutes nos pulsions sont égo-générées, les thérapeutes ont tendance à considérer les sentiments de désespoir à l'égard de notre planète comme des manifestations de psychoses privées ou de réactions affectives dysfonctionnelles, regrette l'activiste environnemental. Au fond, l'éco-anxiété pourrait jouer le même rôle que les éco-gestes en individualisant et en dépolitisant la question écologique. On transforme en pathologie un sentiment tout à fait normal et sain, explique le chercheur en sciences sociales Thierry Ribaud. On culpabilise l'individu alors qu'il est légitime d'avoir peur face à l'avenir et qu'il faudrait même encourager le désir de refuser cette situation et d'entrer en résistance. À leur époque, les pionniers de l'écologie politique, Günther Anders et Hans Jonas, avaient même fait de la peur une pulsion de vie, un moteur de l'action. Mais l'éco-anxiété insiste uniquement sur son versant négatif. Elle évoque la peur qui paralyse, déprime ou anesthésie. Il n'est d'ailleurs pas anodin que ce terme ait triomphé dans l'espace public. C'est celui qui est le plus désarmant et le moins subversif.
Reporter.
Le quotidien d'écologie.
L'éco-anxiété confine nos affects. Elle minore les autres sentiments que nous pouvons éprouver. Même le psychothérapeute Jean-Pierre Danf trouve cet engouement médiatique autour de l'éco-anxiété disproportionné. Il disait sur France Culture « ressentir personnellement autant d'anxiété que de colère ». Autrice d'une enquête sur l'éco-anxiété en 2019 auprès de 1264 personnes, la psychothérapeute Charline Schmerber juge elle aussi l'expression réductrice. Dans son étude, 84% des personnes interrogées affirment ressentir d'autres types d'émotions, comme la colère, 24%, ou la tristesse, 18%. Comment expliquer que ces autres sentiments soient dès lors invisibilisés? À quoi participe cet emballement autour de l'éco-anxiété? Pourquoi ne parle-t-on pas plutôt d'éco-rage ou d'éco-résistance? Un détour par le Japon n'est pas inintéressant pour comprendre les stratégies de pouvoir à l'œuvre. L'éco-anxiété est une nouvelle arme pour les dominants dans ce que René Riesel et Jorge Semprún appellent l'administration du désastre ou la biopolitique des catastrophes. L'orchestration des inquiétudes et des angoisses des citoyens est une manière de dresser le corps social, de domestiquer les instincts de colère et de justifier une société de contrôle toujours plus coercitive. Au Japon, l'accident nucléaire de Fukushima en 2011 a ouvert la voie à un nouveau régime politique. Le capitalisme apocalyptique, que Reporter avait déjà décrit, où les autorités ont dû gérer les émotions de la population, légitimement effrayée par la diffusion de la radioactivité. Les gouvernants ont accusé de radiophobie leurs opposants et traité certaines femmes qui osaient remettre en question les institutions médicales de mamans irradiées de la cervelle. La pathologisation de ces adversaires est un instrument de domination assez classique, souligne Thierry Ribaud. En stigmatisant les affects de ses opposants, le pouvoir démine leurs charges de révolte et les rend inoffensifs.
Reporter, le quotidien de l'écologie.
Cette technique a été utilisée à maintes reprises dans l'histoire. Des femmes qui revendiquaient leurs droits et que l'on traitait d'hystériques, aux esclaves en fuite que l'on considérait comme des malades mentaux au XIXe siècle aux États-Unis. Ils auraient souffert de drapétomanie, un terme qui vient du grec drapétès, signifiant esclave en fuite, et mania, folie. À l'époque, l'institution médicale préconisait un traitement spécifique à base de savon et de décarbonisation du sang, mais surtout de fouet et de travail au champ. On voit aujourd'hui des mécanismes similaires se mettre à l'œuvre autour de l'éco-anxiété. Face aux jeunes qui souffrent, les autorités s'aménagent une place à leur chevet et les criminels climatiques jouent les protecteurs. L'éco-anxiété est un concept pour remettre de l'ordre, résume la chroniqueuse de Reporters Célia Izoard. Le très conservateur gouvernement australien vient de décider, par exemple, d'augmenter l'enveloppe budgétaire pour accompagner les jeunes éco-anxieux à l'école grâce à des aumôniers scolaires formés pour apaiser les inquiétudes et lutter contre le discours apocalyptique d'Extinction Rebellion. Les autorités prolongent en même temps leur politique du charbon et accusent les activistes climatiques de priver d'espoir nos enfants. En France aussi, face à une jeunesse qui se dit apeurée par la crise environnementale, Emmanuel Macron n'hésite pas à tenir des discours paternalistes et condescendants. Depuis plusieurs années, le régime néolibéral a très bien su capturer les émotions des populations et en jouer pour continuer tranquillement le ravage. Le conflit et la critique sociale ont été délaissés au profit d'un encadrement thérapeutique des émotions, écrit Renaud Garcia. Le pouvoir thérapeutique avance masqué sous les oripeaux de la bienveillance et dessine une forme insidieuse de dépossession. Nous entrons dans ce moment où l'anticipation du désastre implique à la fois le repli narcissique et l'expérience tout azimut des débordements émotionnels. Avant le déluge, le moi.
Reporter est un média indépendant, en accès libre, sans publicité et financé par les dons de ses lecteurs. Pour nous soutenir, rendez-vous sur reporter.net/don. Reporter.
Le quotidien d'écologie.